Radio Okapi.
Évasion à la prison de Boma au Congo central. 28 détenus se sont échappés et 5 ont été rattrapés. Ces prisonniers ont scié les antivols de la fenêtre d'aération de leurs cellules pour s'évader. Un camion-citerne transportant des câbles électriques volés et des lingots de cuivre présenté hier au gouverneur de la province du Haut-Katanga par la police. Le responsable du camion ainsi que les propriétaires des biens saisis sont recherchés. La décision prise par la Cour de cassation accordant la liberté provisoire à Vital Kamerhe est conforme aux lois de la République. Déclaration de Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, que nous recevons dans ce journal. Bonjour à tous. Ouvrons cette édition au Congo central. Évasion cette nuit à la prison de Boma. Le maire de cette ville qui livre l'information à Radio Okapi indique que 28 détenus ont pu s'échapper, mais 5 d'entre eux ont été rattrapés. Marie-Josée Nyongo Nswami explique que ces prisonniers ont scié les antivols de la fenêtre d'aération de leur cellule pour s'échapper. Les gardes n'ont rien entendu du fait de la forte musique qui provenait de la veillée mortuaire du directeur de cette prison organisée à proximité du centre pénitentiaire. Pour l'heure, les services de sécurité sont aux trousses des fugitifs. Le point avec Nana Purich Mambou.
D'après Marie-Josée Nyongo Nswami, maire de la ville de Boma, cette évasion des 28 prisonniers s'est produite vers 1h. Ces prisonniers sont parvenus à fuir après qu'ils aient scié les antivols de la fenêtre d'aération du lieu de détention. Selon l'autorité urbaine, au moment de cette évasion, les policiers commis à la garde de cette maison carcérale étaient distraits par l'intensité de la musique qui provenait de la veillée mortuaire de M. Bernard Mbalambumba, directeur de la prison, organisée non loin de cette maison carcérale. Mais quelques instants après l'évasion, les forces de l'ordre ont pu récupérer 5 évadés dans les encablures de la prison grâce à des tirs de sommation. Un parmi eux a reçu une balle aux côtes et a été acheminé à l'hôpital général de référence de Boma pour des soins appropriés. Le maire de Boma dit avoir diligenté une enquête pour connaître la provenance de la scie qui a servi à cette évasion ainsi que les meneurs du dit forfait. La prison de Boma, construite en 1905, est aujourd'hui très vétuste avec des conditions de détention très mauvaises. Sa capacité d'accueil est de 150 détenus, mais jusqu'à hier mardi, 270 pensionnaires s'y trouvaient. Signalons que le 25 septembre dernier, 12 autres détenus s'étaient évadés de cette même prison. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
En Ituri, 5 personnes, dont un commandant de la police, ont été tuées au cours d'une attaque la nuit dernière des miliciens de la Codeco au village Andissa, à 18 km de la commune rurale de Mungwalu, dans les territoires de Djougou. Selon les sources locales, ces hommes armés ont commis ces exactions pendant qu'il fuyait le bombardement aérien des FARDC à la périphérie de cette entité minière. Le bourgmestre de cette commune demande à la population de collaborer avec les FARDC pour dénicher l'ennemi. Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis samedi dernier que les combats se déroulent entre les FARDC et le groupe armé Codeco dans la commune rurale de Mungwalu, à 85 km de la ville de Bounia, dans le territoire de Djougou. Pendant leur incursion, ces miliciens ont tué 9 civils et incendié plusieurs maisons accompagnées de scènes de pillage. Dans l'après-midi d'hier, ces miliciens en fuite ont pris d'assaut le village Andissa situé à 17 km de Mungwalu. La société civile locale rapporte que ces inciviques ont attaqué d'abord un bureau du commissariat de la police pour se ravitailler en munitions. Lors de l'échange des tir avec les agents de l'ordre, un commandant de la police a été blessé par balle et il est mort sur place. Ces miliciens ont également tué 4 personnes, dont 2 femmes. Plusieurs habitants ont passé la nuit dans la brousse, rapporte le président de la société civile locale. Chérubin Kukundilawa demande aux FARDC de poursuivre l'offensive afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette zone. De son côté, le bourgmestre de cette commune indique que les opérations sont en cours pour dénicher les assaillants. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, les interventions de la MONUSCO ont permis de sauver plusieurs vies humaines et de réduire des dégâts matériels. C'était lors de dernières incursions du groupe armé CODECO au site des déplacés de Roé dans le territoire de Djougou et au village d'Amé dans le territoire de Mahagui, indiquent les notables et autorités coutumières de ces entités. Selon eux, les casques bleus poursuivent les opérations des patrouilles pour la protection des civils qui sont sous la menace permanente d'attaque de ces miliciens. Isaac Raymond nous fait le point.
Selon les secrétaires d'ici des déplacés des Ro en territoire des Djougou, trois tentatives d'attaque des miliciens de la CODECO ont été déjouées la semaine dernière par les casques bleus de la MONUSCO qui ont tiré plusieurs coups de feu pour les déloger. Désiré Bayemouka indique que les forces de la MONUSCO ont installé leur base proche du site pour protéger plus de 50 000 déplacés sur place. Il précise que sans la présence de la MONUSCO, de nombreux déplacés seraient tués par cette milice.
La MONUSCO nous est très importante puisque ni leur présence, on ne peut pas survivre ici parce que c'est la MONUSCO qui garde notre sécurité.
La population du centre commercial d'Amé en territoire des Mahagui s'est dit également satisfaite de la promptitude de ces casques bleus venus des rôles lors de l'incursion du groupe armé CODECO le 29 novembre dans cette agglomération, ce qui a permis de préserver des vies humaines. Un notable, Jean-Marie Kawaruigno, indique que ces soldats de la paix font également des patrouilles qui rassurent les habitants qui voulaient fuir les menaces d'attaque de ces miliciens.
C'est la MONUSCO. Moi, j'apprécie leur action parce que nous n'avons pas commis de dégâts matériels ni de dégâts humains. Il était cette intervention-là, en tout cas, on a réagi. Plusieurs dégâts matériels, même humains.
Signalons que le groupe armé CODECO a intensifié les attaques depuis un mois dans plusieurs localités en territoire des Djougou et une partie des Mahagui. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Un médecin a été enlevé la nuit dernière par des hommes armés non encore identifiés au cours d'une attaque contre le centre de santé chirurgicale Kitsa dans la commune de Boulungu à 7 km de Beni au nord Kivu. Selon des sources sécuritaires et de la société civile, ces hommes armés ont cassé le portail d'entrée du centre de santé avant de s'y introduire. Les mêmes sources indiquent que les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l'air avant de mettre la main sur le médecin et l'emmener vers une destination inconnue. La police dit avoir ouvert une enquête pour tenter d'identifier ces assaillants et retrouver le médecin. Je l'ai dit dans les titres, présentation hier mardi à Lubumbashi au gouverneur de la province du Haut-Katanga d'un camion-citerne transportant frauduleusement des câbles électriques et quelques lingots de cuivre. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour retrouver non seulement le responsable de ce camion, mais aussi le propriétaire de tous les biens saisis. Jean Gandou pour les détails.
À en croire le service de sécurité, ce camion a été intercepté le vendredi dernier au poste frontalier de Mokambo au moment où il s'apprêtait à traverser la frontière avec la Zambie. Ce camion-citerne à immatriculation étrangère avait à son bord des câbles électriques, de la SNEL découpée et des lingots de cuivre. Le chauffeur a pris les larges, abandonnant ainsi son véhicule. Les enquêtes sont en cours pour retrouver le propriétaire de ce camion et tous ses complices, nous a indiqué le ministre provincial de l'Intérieur. Jean Lumbwe sollicite la collaboration de la population pour dénoncer tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire et pourquoi pas aussi tous ceux qui sabotent le patrimoine de la SNEL. Et pour tirer cette affaire au clair, il a promis de transférer très prochainement ces dossiers au parquet afin que tous les réseaux soient démantelés. À noter qu'à cause du vol récurrent des câbles électriques, plusieurs quartiers sont privés d'électricité pendant de longs moments. Certaines entreprises ne fonctionnent pas bien, d'autres recourent à des générateurs pour faire tourner leurs machines. Ce qui implique des dépenses supplémentaires ont toujours déploré ces entreprises. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Renforcement des mesures de lutte contre la COVID-19 au Kasaï oriental. Dans un point de presse tenu hier mardi à son bureau de travail, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a annoncé un train de mesures pour relayer les dispositions prises par le gouvernement central. Parmi ces mesures, on note le port obligatoire des masques dans les lieux publics, la suppression des veillées mortuaires, la réduction à 50% de la capacité d'accueil dans les lieux appelés à accueillir des manifestations publiques, ainsi que l'observance du couvre-feu. Écoutons à ce sujet Roger Nsinga, commissaire provincial de la PNC, qui revient sur ces quelques dispositions.
C'est le port obligatoire et correct du masque dans tous les espaces publics. Renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public en termes clairs. Le lavage de mains, la prise de température corporelle et l'application des gels hydroalcooliques à l'entrée de chaque édifice et même privé. La distanciation sociale, l'obligation de se faire tester au Covid à chaque entrée et surtout dans les voyages interprovinciaux. Tous les voyageurs qui entrent sur le territoire doivent disposer d'une attestation alléguant qu'il est sain par rapport à cette maladie. La stricte application du couvre-feu, de 23h à 5h du matin. Au-delà de 23h, plus personne ici. Les marchés publics, les endroits publics où il y a les manifestations sportives au stade, les lieux qui accueillent ces manifestations fonctionnent à 50% de leur capacité d'accueil. Plus de veillées portuaires, ça, on a interdit. Les terrasses peuvent fonctionner, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit peuvent fonctionner.
Au Kwilu, dans la ville de Kikwit, l'ONGD Action pour la promotion et le développement intégral des vulnérables, APDIV, en sigle, en collaboration avec l'Union nationale des aveugles du Congo, l'Association des sourds et muets, ainsi que l'Association des albinos, organise une campagne de sensibilisation en faveur des personnes vivant avec handicap. Cette campagne sera menée dans les écoles et milieux académiques de cette ville. Elle entre dans le cadre de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année. Selon le coordonnateur de APDIV, l'objectif est de sensibiliser les élèves et étudiants afin qu'ils puissent changer leur regard face à cette catégorie de personnes qui sont souvent marginalisées à Kikwit. On écoute José Nzoubi, coordonnateur de l'APDIV, au micro de Irène Boma.
Que dans la ville de Kikwit, les personnes avec handicap sont généralement considérées comme étant des bons à rien, comme étant porteuses de mauvais sorts, comme étant des sorciers. Et souvent, ils sont l'objet des railleries et des moqueries de la part de ces jeunes gens. Ainsi donc, en organisant cette grande campagne de sensibilisation, ces ONGD veulent aider les jeunes à changer leur regard face à cette catégorie de personnes, à les considérer comme étant des personnes à part entière, qui ont des droits et devoirs, qui ont également quelque chose à apporter dans la reconstruction de notre pays. Et nous voulons également aider les autres à comprendre que avoir un handicap sur soi n'est pas une fatalité. Quand on est personne avec handicap, ça ne signifie pas qu'on doit être malheureuse dans la vie ou qu'on doit être toujours mendiant ou dépendant des autres. Et nous assumons notre situation, nous sommes fiers d'être ce que nous sommes, mais nous demandons tout simplement que les autres puissent également coopérer avec nous, non pas en ayant pitié de nous, mais plutôt en nous aidant.
Au Parlement, le Sénat a débuté hier mardi l'examen en deuxième lecture de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2020 et du collectif budgétaire 2021. D'une part, les sénateurs ont déploré et dénoncé les dépassements budgétaires excessifs qui violent systématiquement la loi sur les finances publiques. Et d'autre part, ils dénoncent la non-amélioration des conditions sociales de la population en dépit de l'augmentation des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2021. Michel Kifindangoy.
Comme plusieurs autres sénateurs, Francine Muyumba dit ne pas comprendre comment, malgré le contexte de pandémie à COVID-19, la présidence a réalisé un dépassement d'environ 75% alors que la santé n'a bénéficié que d'un financement de moins de 50% des prévisions budgétaires.
La présidence de la République a déjà consommé plus de 552,7 milliards de francs congolais, soit un dépassement de 72,9%. La santé à 42%. L'agriculture, la pêche et l'élevage, 36,8%, 3%, alors que c'était très important pour résoudre le problème quotidien de notre concitoyen.
Saluant les excédents dans les recettes du budget 2021, le sénateur Évariste Boshab dénonce que cela n'ait pas été affecté au social de la population.
Lorsqu'il y a un sort excédentaire, les baromètres pour nous, c'est le social. Qu'est-ce qui a été affecté au social? Nous devions sentir qu'il y a un excédent. Sur le plan social, les députés provinciaux ne sont pas payés. Et on vient nous dire si qu'il y a un excédent.
Déplorant les inégalités dans l'exécution du budget 2020 et 2021, plusieurs sénateurs exigent des explications du gouvernement attendues dans les heures qui suivent.
Actualité internationale. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est en visite ce mercredi à Alger afin de relancer la relation franco-algérienne extrêmement complexe et tendue depuis des mois, a appris l'AFP auprès du ministère français des Affaires étrangères. Il s'agit d'une visite de travail, d'évaluation et de relance des relations, a indiqué le Quai d'Orsay. Le déplacement tenu secret jusqu'au dernier moment verra Jean-Yves Le Drian rencontrer son homologue algérien ainsi que le président algérien selon cette source. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi au poste de chancelier par le Parlement allemand, succédant ainsi à Angela Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. L'ancien ministre des Finances, âgé de 63 ans et vice-chancelier d'Angela Merkel, dirigera une coalition inédite composée du Parti social-démocrate, des Verts et des Libéraux.
L'invité.
Je le disais dans le titre, Jean-Claude Katende est notre invité. Il réagit donc à la libération, à la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, suivant cet entretien.
Bonjour, maître Jean-Claude Katende.
Bonjour.
La Cour de cassation vient d'accorder la liberté provisoire à Vital Kamerhe. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision?
La première chose qui nous a préoccupé était de savoir si la décision prise par la Cour de cassation était conforme aux lois de la République. Effectivement, c'est dans la compétence de la Cour, pour ce qui concerne les dossiers de M. Kamerhe, de lui accorder la liberté provisoire, et je pense que c'est ce que la Cour a fait. Et la décision de la Cour, elle est conforme aux lois de la République et particulièrement à la loi qui organise la procédure devant la Cour de cassation.
Mais d'autres ONG de droits de l'homme, telles que ACAJ, disent que cette décision est un scandale judiciaire. Qu'en pensez-vous?
Non, je pense que Maître Georges Katiemba avait promis de produire un communiqué par rapport au tweet qu'il avait fait. Du moment où ce communiqué n'est pas publié, je pense qu'il est tombé d'accord avec beaucoup d'autres juristes sur le fait que la question de la liberté provisoire accordée à M. Kamerhe est conforme à la loi de la République.
Non, mais hier, nous l'avons reçu ici. Lui l'a dit, ce sont ses propres termes, hein, que c'est vraiment un énième scandale judiciaire. C'est vraiment une honte. Et puis, cette décision porte un coup fatal au projet de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics dans notre pays. Donc, il n'est pas du tout d'accord avec la Cour de cassation.
Je pense que la Cour a pris sa décision conformément à l'article 47 alinéa 5 de la loi qui organise la procédure devant elle. Sur cette question-là, je pense que beaucoup des juristes sont d'accord. Mais une autre question qui doit se poser au-delà, n'est-ce pas, de la question de droit, c'est celle de savoir est-ce que c'était le moment opportun pour pouvoir accorder la liberté provisoire à M. Kamerhe. La réponse à cette question, elle est tout à fait relative. Mais il faut se dire que dans le cas d'espèce, c'est les juges ou les magistrats qui apprécient s'ils doivent pouvoir accorder la liberté provisoire ou pas, et c'est en fonction des éléments qui sont mis à sa disposition. Et dans les cas d'espèce, il faut dire aussi que nous n'avons pas l'arrêt de la Cour qui accorde la liberté provisoire pour savoir quels sont les éléments qui ont été produits devant la Cour pour qu'elle arrive à cette décision-là. Et donc, je dirais tout simplement que la Cour a apprécié parce que c'est dans son pouvoir et a accordé la liberté provisoire. Est-ce que cela porte un coup dur à la lutte contre les détournements des fonds publics? J'ai dit que si nous voulons un état de droit, il est clair que nous devons respecter les lois de la République. Il faut dire aussi qu'il y a eu une très mauvaise communication autour du dossier de M. Kamerhe, parce que beaucoup de politiciens ont fait passer le message selon lequel toute personne qui serait condamnée pour les détournements des deniers publics ne peut pas bénéficier de la liberté provisoire. Cela n'est dit nulle part. Et donc, si la Cour a respecté la loi, c'est qu'on a respecté l'état de droit, parce qu'il n'y a aucune disposition légale qui interdit à ce que la liberté provisoire soit accordée à une personne condamnée pour détournement des deniers publics. C'est au juge d'apprécier. Et dans le cas d'espèce, ils ont apprécié et ils se sont basés sur une disposition qui est connue de beaucoup de juristes. Et donc, je considère tout simplement que l'état de droit a été sauvegardé.
Une certaine opinion pense que cette libération provisoire du président de l'UNC est l'expression de l'influence de la politique sur la justice. Et donc, la séparation du pouvoir n'est toujours pas effective au pays. Que répondez-vous à ça?
Il faut seulement considérer que si nous voulons un état de droit, l'un des éléments d'un état de droit, c'est la promoter du droit, c'est-à-dire la promoter de la loi. Et dans les cas d'espèce, la question que nous devons nous poser, est-ce que les juges ont eu comme base la loi pour, n'est-ce pas, se prononcer? Ma réponse est oui. Est-ce que les juges ont le droit d'apprécier les éléments sur base desquels la liberté provisoire est demandée et de donner leur position en toute indépendance? Je dis aussi oui. Donc, par rapport à cet aspect spécifique du dossier de monsieur Caméré, je crois que l'état de droit est sauvegardé. Nous ne devons pas chercher une chose et son contraire. Et je pense que le faire, c'est une chose très mauvaise.
Maître Jean-Claude Katende, merci beaucoup.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.